est blanche.
40 nuances de Sista. Les Sista du Next 40, comme vous ne les avez jamais entendus, animés par Solène Etienne, cofondatrice du brand studio Feuille Blanche.
Parce que vous entendrez encore trop peu de voix féminines parmi les dirigeants du Next 40, nous avons voulu, avec Olivier et Thomas, féminiser à notre manière ce palmarès des champions de la tech, en proposant à leurs dirigeants de mettre en lumière une femme entrepreneur qu'ils admirent. Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche, et je vous propose de découvrir les Sista du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama.
On n'a qu'une vie. You only live once. Voilà le credo des deux entrepreneurs que j'accueille aujourd'hui dans ce hors-série 40 nuances de Sista, Rebecca Fischer-Bensoussan et Camille Agon, cofondatrices de YOLO. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors Rebecca et Camille, vous avez remporté les Elle Impact Awards en février 2023. C'était la première édition de ce concours. Elle Impact, c'est une association fondée par Sandrine Yana, qui en est la coprésidente avec Paola Fabiani. Elle réunit des femmes et des hommes engagés, dirigeants, dirigeantes d'entreprises, hauts fonctionnaires, membres d'équipes parlementaires, étudiants, étudiantes, et se donne pour mission de faciliter l'accès à la levée de fonds pour les femmes entrepreneurs et inciter les filles et les jeunes filles à rejoindre les filières scientifiques pour une société plus performante et plus paritaire. Feuille Blanche est partenaire de Elle Impact et nous sommes donc ravis d'accueillir à notre micro les gagnantes de ce premier prix.
Et nous aussi, on est ravis d'être là.
Alors je crois que tout à l'heure, en préparant l'émission, vous m'avez glissé quelques off sur votre participation à Elle Impact. Donc j'ai hâte d'arriver à ce moment-là de l'émission. Mais en attendant, je vous propose pour ouvrir cet épisode de rentrer sur le ring du pitch. Laquelle de vous deux veut se lancer sur ce ring? Est-ce qu'il y en a une qui a l'habitude de plus pitcher que l'autre?
Je suis la commerciale, donc a priori c'est moi.
Rebecca. Vas-y, alors.
Ok, donc YOLO, You Only Live Once, c'est le premier service aux entreprises qui leur permet de donner accès à leurs salariés, hommes et femmes, à des assistantes personnelles dédiées, pour pouvoir être accompagnés et épaulés dans leur quotidien et du coup pouvoir retrouver du temps pour eux, pour leur famille, pour ce qui compte pour eux et puis pour oser le poste d'après. On est parti d'une problématique qui a été la nôtre, qui est celle de la difficulté de la maternité en entreprise. On reviendra sur nos parcours après, mais l'idée était vraiment de se dire qu'aujourd'hui, un des principaux freins à la carrière des femmes notamment, c'est les réalités de vie, c'est la charge du quotidien, c'est cette fameuse charge mentale dont on souffre tous plus ou moins. Et du coup, avec Camille, on a voulu adresser ce sujet en mettant en place une solution qui soit vraiment concrète et pragmatique et qui permette du coup aux entreprises d'arriver avec des vraies solutions pour pouvoir aussi, elles, accélérer notamment sur le sujet de parité. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ça reste un vœu pieux et un objectif, mais on les DRH avec lesquels on échange nous disent quand même que ça reste extrêmement difficile parce qu'ils ont du mal à avoir un vivier. Et donc, nous, on est là pour leur permettre d'avoir ce vivier en les accompagnant réellement dans leurs besoins.
Cet accompagnement, il se matérialise comment ?
Alors, en fait, on match les salariés en entreprise. Donc, ça peut être des femmes, des hommes, des aidants, des familles monoparentales, des parents d'enfants handicapés. En fait, toute personne qui souffre d'un quotidien personnel et familial surchargé. Et on les match à des assistants, assistantes personnelles qu'on a sourcées, qui sont freelance dans toute la France et qu'on appelle les alliés. Et l'idée, c'est que ces alliés les accompagnent au quotidien sur tous leurs sujets, toutes leurs to-do lists, pour que le ou la salariée puisse déléguer toutes leurs to-do lists. Et ça va de tout l'administratif, les inscriptions aux écoles, les activités, les rendez-vous médicaux, trouver des idées de vacances. Rebecca, c'était là.
Des plats, enfin des demandes, tout. On en a beaucoup. Ouais. Hein, maintenant, on en a plus de 400 dans notre système. Donc, il y a vraiment...
Tout ce qui va faciliter le quotidien.
Tout ce qui va faciliter le quotidien que tu as dans ta liste de tout ce que tu vas faire dans la semaine et dans le mois. En fait, il y a 90% de choses que tu peux déléguer à quelqu'un qui est à tes côtés, qui t'accompagne de façon dédiée, qui te connaît, toi, Solène, et qui, du coup, va vraiment pouvoir être ton allié, t'épauler. Et c'est tout ça qu'on embarque.
Et donc, vous, votre particularité, votre point d'entrée, c'est que vous le proposez aux entreprises. Donc, vos clients premiers, ce sont les entreprises.
Notre modèle, c'est vraiment un modèle B2B. Nous, on avait vraiment envie de faire d'accompagner les entreprises à se transformer, de faire bouger des lignes de l'intérieur. Et donc, effectivement, nos clients, c'est des entreprises, c'est des entreprises du CAC 40, c'est des cabinets de conseil, c'est des grosses PME. C'est aussi des plus petites structures qui vont être très work intensive, qui ont besoin d'accompagner leurs collaborateurs sur l'équilibre de vie. Et puis, ça va aussi être des entrepreneurs qui peuvent avoir besoin d'être accompagnés en perso, en pro. Et donc, voilà, nous, on a vraiment fait ce choix-là de pouvoir, et c'est très différent de ce qui peut d'ailleurs exister, de vraiment partir de l'entreprise, parce qu'on pense que c'est aujourd'hui la responsabilité de l'entreprise d'accompagner justement tous ces sujets personnels. Le Covid l'a révélé, le télétravail l'a acté, le perso maintenant doit faire partie du pro, puisque le pro est rentré dans le perso. Et c'est vraiment ça que fait YOLO.
On sent l'expérience vécue derrière YOLO.
Absolument.
Vous pouvez nous en dire deux mots?
Alors moi, de mon côté, c'est vraiment après ma première grossesse, enfin, mon premier accouchement où tout a basculé. J'ai découvert la maternité et j'ai aussi découvert les joies de la maternité en entreprise. Et je ne m'y retrouvais plus du tout, en fait. J'arrivais pas à concilier entre des horaires de réunions pas adaptées, des voyages au bout du monde et un tout petit garçon qui était rentré dans notre vie. Et donc, j'ai démissionné. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré, que le Covid est arrivé, et ensuite j'ai rencontré Rebecca. Mais vraiment, c'était cette impossible conciliation vie pro-perso, et si c'est possible, à quel prix en fait? Et j'étais pas prête à payer ce prix. Donc voilà.
Et moi, c'est un peu différent. Moi, j'ai travaillé pendant 15 ans dans des banques américaines, donc dans un univers très anglo-saxon et très masculin, celui de la finance. J'ai toujours choisi de ne pas choisir. J'ai 3 enfants, j'ai eu un parcours de maternité en plus qui a été compliqué et que j'ai vraiment géré de front avec ma carrière. Et j'ai, à 35 ans, pris un poste dans un comité de direction.
J'étais la seule femme?
Non, j'étais pas la seule femme, mais j'étais vraiment la plus jeune. Et les problématiques de parentalité que j'avais, personne d'autre ne les avait, évidemment. Et effectivement, je me suis retrouvée avec 3 enfants, dont une petite fille de 8 mois, pendant le Covid, à devoir faire... j'avais 60 personnes dans mes équipes, à devoir faire maîtresse d'école, à avoir donc mes équipes à gérer, plus aucune aide parce qu'on était confinés, puis après s'est mis en place le télétravail. Et c'est vrai que moi, j'ai cherché de l'aide justement pour déléguer des sujets personnels et familiaux. Et cette aide, en fait, je ne l'ai pas trouvée. Et puis en discutant avec beaucoup de femmes qui elles-mêmes avaient été médecins ou professions libérales, qui avaient des carrières et qui en tout cas avaient envie de pouvoir à la fois s'épanouir dans leur vie personnelle et pouvoir avoir de l'ambition professionnelle, je me suis rendu compte que derrière ce sujet, il y avait non seulement une grande souffrance, mais que c'était vraiment un très grand frein. Et ça m'a donné envie de effectivement faire bouger des lignes. Et c'est la rencontre avec Camille qui a permis qu'on puisse le concrétiser.
Oui, si je peux rajouter, nous, c'est vraiment aussi un tabou qu'on souhaite casser. Parce que, donc moi, suite à la naissance de mon fils, j'ai aussi eu un postpartum très difficile. Et c'est pas quelque chose qu'on dit, c'est pas quelque chose qu'on exprime.
Et l'entreprise n'est pas non plus toujours prête à accueillir cette information.
Voilà, et il n'y a pas forcément les bonnes conditions pour le dire, pour le faire. Quand on revient d'un congé maternité, on doit être au même niveau de quand on est parti, alors que tellement de choses ont changé, on a été bouleversés. Et donc, c'est vrai qu'avec Rebecca, il fallait qu'on puisse casser ce tabou, qu'on puisse révéler, en fait, le fait qu'énormément de femmes, et après, c'est aussi des hommes, des aidants, enfin voilà, on souhaite avoir cette ambition inclusive, mais ça part de nous, de notre histoire, de notre vécu, souffrent, ne le disent pas et arrivent en entreprise un peu, on le dit, poker face, sans révéler ce qu'elles ressentent vraiment et le fait qu'elles ont des véritables difficultés à tout concilier.
Vos interlocuteurs en entreprise, ce sont principalement les DRH,
responsables diversité et inclusion, gestion de talent et innovation RH, parce que le sujet notre proposition de valeur, elle est vraiment très innovante d'un point de vue RH. Et donc souvent les entreprises qui ont de l'innovation RH, c'est vers elles que avec tournez, lesquelles on travaille.
Ouais. Qui sont peut-être plus à l'écoute aussi sur cette initiative.
Souvent, les DRH sont des femmes, donc assez vite, oui. Elles comprennent tout à fait ce dont on parle. Mais c'est vrai qu'on a eu la chance, mais on en reviendra, je pense, après. On a été très vite dans notre lancement parce qu'en fait, presque toutes les entreprises auxquelles on a parlé du YOLO nous ont tout de suite dit « c'est intelligent, c'est concret, c'est pragmatique, on essaye, on fait un pilote parce qu'il faut qu'on arrive avec des choses nouvelles ». Donc ça nous a beaucoup porté aussi.
Justement, vous êtes lancé quand exactement ?
On a créé la boîte en juillet 2022 et on s'est lancé officiellement avec nos premiers clients en avril. Et on a commencé à pitcher dès septembre. Ça a été très rapide.
Oui. Et aujourd'hui, vous avez déjà quelques chiffres à nous communiquer?
Oui, alors on a fait 4 mois de bêta test, ouais. Qui nous ont permis de comprendre plein de choses, des besoins, des usages, des choses sur nos bénéficiaires, sur les alliés qui travaillent avec nous. Et on a commencé avec les entreprises début avril. Aujourd'hui, on a 6 entreprises clientes, dont 2 du CAC 40. On a des cabinets de conseil, on a des grosses PME. On a aujourd'hui une quinzaine d'alliés. Donc les alliés, ce sont les assistantes avec lesquelles on travaille. Et d'ici à cet été, on aura déjà 80 bénéficiaires.
Et comment vous les sourcez, ces aidants, ces alliés, comme vous dites?
En fait, on les source, ce sont des assistantes personnelles. Certaines sont anciennes assistantes de direction qui ont généralement quitté le monde de l'entreprise parce qu'elles ne s'y retrouvaient plus. Elles voulaient aussi une certaine flexibilité, liberté. Aussi, le métier de personnel assistant, d'assistante personnelle ou de direction en France est quand même très peu valorisé par rapport aux pays anglo-saxons. Et donc, elles se sont mises à leur compte. Et aujourd'hui, en France, il y a plus de 9000 assistantes personnelles freelance en France. Et donc, nous, on les a sélectionnées, enfin, on les a trouvées sur les sites de freelance type Malte, même sur LinkedIn, et voilà. Et on source à la fois des profils assistantes de direction, assistantes personnelles professionnelles, mais aussi des mamans qui sont sorties du monde du travail. Et c'est la copine qui adore rendre service, qui a toujours les bons plans, les bonnes adresses, qui a envie d'être...
Qui n'a pas de phobie administrative,
qui adore ça. Bon, on en a une de nos alliées qui est typiquement comme ça, maman, et qui était ancienne comptable, qui s'est arrêtée à la naissance de ses enfants. Et là, elle adore, et elle est super, et elle adore épauler au quotidien d'autres femmes qui ont vécu la même chose qu'elle au final.
Ça fait vraiment partie de notre projet d'impact, parce qu'en fait, Yolo, c'est une start-up à impact sociétal à 2 niveaux. La première, c'est vraiment ce sujet de l'accélération de la parentalité et de l'égalité en entreprise, parce que nous, on est convaincus qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas toutes les conditions pour réussir et qu'on doit accompagner ceux qui en ont besoin. Donc ça, c'est vraiment cette partie-là. Et la deuxième, c'est que pour nous, remettre des femmes dans le monde du travail qui en sont sorties et aujourd'hui, que les entreprises ne savent pas comment accueillir et auxquelles on redonne de l'autonomie financière, pour nous, c'est extrêmement vertueux. Et on pense que ça fait vraiment partie, de la mission de Yolo.
Oui, il y a vraiment ce marché biface, en fait, à la fois ceux que vous aidez et ceux qui aident et que vous permettez de remettre dans un système.
Tout à fait.
Comment vous pénétrez votre marché aujourd'hui?
Alors, que ce soit Rebecca ou moi, c'est un peu l'avantage de monter sa start-up à 37 et 38 ans, c'est qu'on a, au fil des années, quand même, consolider un réseau assez important d'entreprises. Et donc, on a beaucoup fait appel à notre réseau. On a beaucoup posté sur LinkedIn par rapport à ce qu'on montait. Donc, on a eu pas mal d'appels entrants, entre guillemets, grâce à ces posts, grâce à ces partages d'expériences, de vécu où beaucoup de femmes, de DRH se sont retrouvées. Et puis aussi, on a osé à postuler à tous les prix qui étaient sur la place.
Alors qu'on n'avait rien, on n'avait même pas de site internet, on n'avait rien, on s'est dit on y va, on verra bien et on nous voilà aujourd'hui, ce qui prouve qu'on a eu raison.
Voilà. Et ça nous a aidé aussi à rencontrer justement des DRH, des entreprises. Et,
ça donne de la légitimité.
Ça donne, et surtout aussi, lors de la remise des prix, il y a beaucoup de personnes qui sont invitées, ça permet de faire du networking et du réseau.
Et puis ça oblige à sortir un site au bout d'un moment.
Voilà.
Mais en fait, on a tout fait très vite. Mais en fait, comme on est très perfectionniste, très exigeante, Camille et moi, on se disait qu'il fallait que ce soit parfait pour qu'on y aille. Et donc c'est là où on se complète bien, mais on y reviendra. C'est que moi, j'ai plutôt ce côté où on y va, même si c'est pas parfait. Et Camille, elle a ce côté où non, c'est important que ça soit plus posé. Et du coup, de ce point de vue-là, on se challenge beaucoup. Et du coup, en fait, ce site était presque prêt, mais pas tout à fait. La page LinkedIn, on l'avait draftée, mais voilà. Et puis quand on a su qu'on était du coup finaliste et qu'il fallait qu'on vienne pitcher, on s'est dit ok, mais là, si par le plus grand des hasards et la plus grande surprise, il s'avère qu'on gagne, il faut quand même qu'on ait un truc, quoi. Donc tout ça nous a fait beaucoup accélérer. Mais pour revenir à ta question, c'est vraiment notre réseau, le réseau de nos réseaux qu'on a su solliciter, qui nous a permis de démarrer et qui aujourd'hui parle de nous à d'autres personnes de leur propre réseau ou même aujourd'hui, nos bénéficiaires, donc les hommes et les femmes qu'on accompagne, qui adorent ce qu'on fait et dont on a vraiment changé le quotidien, sont hyper prescripteurs, en fait. Et du coup, nous mettent eux-mêmes en relation avec d'autres entreprises.
C'est les meilleurs ambassadeurs.
Bien sûr.
Alors, vous parliez de votre complémentarité, de votre association. Off micro, vous me disiez que, en fait, vous n'étiez pas amis avant de monter à Yolo. Comment s'est fait la rencontre?
Alors, on était amis parce qu'on se connaissait pas. Aujourd'hui, voilà. On est très, très amis. Comment s'est fait la rencontre? De mon point de vue, en fait, moi, j'ai vécu longtemps en Afrique du Sud et je suis rentrée en France il y a 3 ans. Et une amie qu'on a en commun m'appelle un jour en me disant « J'ai une très bonne amie, Rebecca, qui travaille dans le monde de la finance et qui veut monter sa boîte dans l'éducation. Comme toi, moi, j'avais monté un projet dans l'éducation en Afrique du Sud. » Rencontre là, vous allez pouvoir peut-être, pouvoir bénéficier de ton expérience, etc. Et on a pris un café et ça a fité tout de suite et on s'est dit qu'il fallait qu'on monte quelque chose ensemble. Et au final, on n'a pas du tout monté quelque chose dans l'éducation, on a monté quelque chose qui était lié à nos réalités de vie qui nous touchait aujourd'hui beaucoup plus, en fait, enfin, qui nous touchait énormément, qui était ce sujet des femmes et de la conciliation pro-perso.
Vous avez pré-checké des points avant de vous dire go, on y va ensemble?
Pas vraiment. En fait, moi, je pense, il y a eu, en fait, 2 temps. Moi, j'ai 3 enfants et j'ai monté un début de boîte à chaque grossesse. Enfin, à chaque congé mat, j'ai commencé un projet. Et puis, chaque fois, je suis retournée dans mon poste de salarié, prendre le poste d'après. Mais j'avais ce truc en moi depuis toujours. J'ai toujours été très intrapreneur et je savais qu'à terme, c'était vraiment ça mon chemin, mais il fallait que j'arrive à y aller. Et en fait, c'est vrai que j'avais jamais, moi, je sais pas travailler seule. C'est pas du tout mon truc. Mon énergie, c'est les autres. Et donc, j'avais jamais trouvé la personne qui me fasse me dire oui, j'ai envie de faire quelque chose avec elle. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré Camille, et effectivement, on se connaissait pas du tout, ça a tout de suite fité. Mais on était effectivement plutôt partis dans autre chose. Et puis, c'était pas le bon moment, ni pour elle, ni pour moi. Mais on s'était dit, bon, on en reparlera. Et puis, moi, de mon côté, professionnellement, les choses se sont un peu accélérées parce que j'ai décidé de partir. Enfin, on a décidé d'arrêter avec l'entreprise dans laquelle j'étais. Et du coup, j'avais cette intuition absolue de ce qu'allait devenir YOLO. En tout cas, du fait qu'il y avait vraiment un boulevard pour nous et un besoin hyper fort. Et du coup, quand on s'est retrouvé avec Camille en janvier 2021, je lui ai dit voilà, bon, moi je suis sortie et voilà, au fond de moi, voilà ce que je sens et voilà ce que j'ai vraiment envie de faire. Et Camille m'a dit génial, ça me plaît, mais moi je suis enceinte. J'ai dit ok, mais bon, vu le sujet qu'on adresse, c'est pas moi qui vais te dire que c'est un problème. Et du coup, on a commencé un peu à discuter. Camille était toujours en poste, donc de toute façon, voilà, il fallait qu'elle aille au bout de ce sur quoi elle travaillait. Mais voilà, on a commencé un peu à réfléchir, etc. Et je trouve qu'on a été assez intuitive, c'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est dit on y va, c'est là on a commencé un peu à faire les checks, de se dire bon, toi, Camille avait fait une liste, je me souviens, une espèce de liste de apprendre à se connecter entre qu'associés. On s'est fait une mini retraite en Normandie pendant 2-3 jours il y a 1 an pour un peu se dire comment on allait
pendant 2 jours.
Voilà.
Non, mais moi, en fait, j'avais déjà monté une boîte avec une associée.
Donc tu avais déjà cette expérience.
J'avais déjà cette expérience et je suis de toutes les façons quelqu'un de très intuitif, donc on m'enlèvera jamais ça, donc je pourrais pas faire de pre-check. En revanche, on a fait en effet des post-check, mais moi j'avais fait une thérapie de couple avec mon associé à l'époque. Donc j'avais vraiment toutes les questions. On a même fait un test d'énergie pour être sûr que nos énergies étaient complémentaires. Et puis il s'avère que voilà, que ce soit nos énergies ou nos expériences, on s'apporte énormément, et le fait d'avoir cette expérience, en fait, de commencer plus âgé, hein, parce que c'est la réalité, fait qu'on a quand même plus d'expérience, de vécu, et qu'on est moins, enfin, en tout cas, moi, je suis moins dans la réaction ou dans la sensibilité comme je pouvais l'être avec mon autre associé.
Et puis, je pense qu'il y a une grande vertu dans la situation qui est la nôtre, qui fait qu'en fait, comme on ne se connaît pas, on ne peut pas partir avec
des a priori,
et du coup, on a beaucoup d'écoute. On est vraiment dans le fait de beaucoup communiquer, de beaucoup s'écouter, de se dire quand ça va, de se dire quand ça va pas. Quand on sent qu'on n'arrive plus à faire parce qu'on est prêt dans le personnel, on essaye de s'en extraire pour le faire. Et en fait, on prend finalement peut-être beaucoup plus de précautions que si on se connaissait depuis très longtemps. Et en fait, du coup, ça pourrait cristalliser finalement plus de difficultés.
Il y a des points que vous voudriez partager à des auditeurs, auditrices qui nous écouteraient, qui diraient il faut peut-être que je post-check des choses avec mon associé, des choses qui pour vous étaient essentielles à post-checker?
Je pense que ce qui est très important de mon côté, c'est vraiment quand on monte une boîte, faut s'éclater. En fait, si on décide de sortir du monde du travail, justement, enfin du monde corporate pour monter sa boîte, il faut que ce soit l'éclate et il faut faire ce qu'on aime, même si il y aura toujours des choses chiantes, etc. Mais il faut quand même faire ce qu'on aime. Et donc il y en a des milliards sur Internet, hein, mais un test, un questionnaire d'énergie, de ce qui nous donne de l'énergie. permet à la fois de mieux se connaître et de se dire, bon ben voilà, moi non seulement je suis bonne à ça, mais en plus je kiffe le faire, et de se dire que l'autre c'est ça, et si aucune des deux, donc par exemple, moi enfin les chiffres, le tableau Excel, etc., ça va me prendre 14 jours, je vais déprimer à la fin, et Rebecca c'est un peu pareil, du coup faut qu'on délègue. Ouais. Et après du coup on trouve aussi les personnes en fait qui vont nous accompagner devront répondre à certaines énergies que nous on n'a pas, certaines aptitudes que nous on n'a pas, et je pense que ça c'est très important pour vraiment être dans la complémentarité.
Et justement aujourd'hui vous êtes toutes les deux, vous avez des équipes avec vous?
Alors on est toutes les deux, on a deux alternants avec nous et on a toute cette communauté d'alliés du coup qui nous accompagne, et on a quand même constitué autour de nous un, je peux pas appeler ça un board of advisors, mais il y a quand même des gens qui nous accompagnent dans notre projet, auxquels on sait qu'on peut faire appel quand on a besoin, quand on a des questions, que ce soit sur des sujets business, sur des sujets tech, sur des sujets, voilà, sur plein de sujets. On a constitué autour de nous une espèce de crew qui nous soutient et qui nous supporte.
Comment vous voyez YOLO? Parce que là, c'est tout récent, vous êtes allé très vite, donc dans un an et dans cinq ans.
Bah, ça tombe bien, on rentre de notre mini-retraite de deux jours, donc on a tout ça très frais.
Vas-y.
Nous, on a... Aujourd'hui, en fait, les entreprises qu'on accompagne, c'est plein d'entreprises sur des formats pilotes. Parce qu'effectivement, c'est un nouvel usage, c'est un nouvel accompagnement qui aujourd'hui n'existe pas. Donc, on est en train de construire des métriques, de comprendre l'impact, ce qui est pour l'entreprise le revenu, le retour sur investissement. Et donc, déjà, notre première étape, c'est celle-là. La deuxième étape, donc du coup, d'ici à un an, c'est de transformer ces pilotes de façon plus pérenne dans les entreprises et de continuer à en embarquer des nouvelles. Parce que nous, à terme, notre mission avec YOLO, notre mission absolue, c'est de permettre que un jour, n'importe quelle femme ou homme qui en ait besoin, de la même façon qu'il a au bout de son app un VTC qui arrive en 3 minutes, c'est qu'il puisse avoir une alliée dans son quotidien qui soit aussi accessible que tout un tas de services aujourd'hui auxquels on se pose même plus la question, dont on se pose même plus la question. Et en fait, nous, c'est vraiment ça notre projet à terme. C'est que finalement, le fait d'avoir ce soutien dans le quotidien, ça soit pas une preuve d'incapacité, mais au contraire parce qu'on a tout compris et qu'en fait, on sait qu'aujourd'hui, en déléguant, on est beaucoup plus fort, beaucoup plus solide, qu'on retrouve du temps et qu'en fait, c'est ça le bon chemin. Et ça, qu'on arrive à le faire rentrer en fait dans la vie de tout le monde. Et donc, nous, on a un projet derrière qui est vraiment un projet de B2C, enfin de massification de notre offre, et qui là va passer effectivement par de la levée de fonds, des investissements d'un point de vue tech, de l'automatisation, de l'intelligence artificielle. On est aussi en train de recréer un nouveau métier en fait, parce que ce métier d'assistante administrative dont parlait Camille, c'est un métier qui est très dévalorisé en France, alors que nous on est persuadés qu'il fait partie du futur du travail, et qu'aujourd'hui tous les gens qui se posent la question de comment ils veulent travailler demain, on le voit, hein. Dès qu'on fait un poste, on a une quantité de candidatures qui nous arrivent de femmes et d'hommes qui sont parfois déjà encore en poste, mais qui veulent travailler différemment demain. Et ça fait aussi partie de notre projet de créer ce collectif, cette communauté, pour pouvoir réussir à avoir finalement une présence sur le marché qui soit vraiment importante.
Aujourd'hui, l'entreprise, elle paie par nombre d'assistants. Comment ça fonctionne la tarification?
En fait, l'entreprise va prendre des forfaits par salarié. Et chaque salarié va être matché à une alliée. Mais une alliée peut accompagner jusqu'à de 6 à 8 salariés différents.
D'accord.
Donc, l'entreprise va acheter des forfaits sur 12 mois. On propose 3 forfaits. Le forfait Relieve, Unload et High Maintenance. L'idée, c'est des forfaits d'heures, en fait, 5, 10 heures et 15 heures, mais plus.
Par mois, du coup?
Oui, par mois.
Sur 12 mois. Okay. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est parce que quand on peut entendre, quand on avoir sa propre PA, on a l'impression que c'est un rêve, que c'est un luxe. Et nous, on souhaite vraiment le démocratiser. Et surtout, on voit dans les entreprises qu'elles vont aller le proposer aux mamans solo, aux papas solo, aux familles parents d'enfants handicapés, aux impatriés. Donc, c'est pas forcément des postes top exec. Et ça, ça va exactement dans le sens de notre mission. Parce qu'on souhaite vraiment accompagner ceux qui en ont le plus besoin. Et ça va vraiment dépendre des réalités de vie de chacun.
Quel est le pire conseil qu'on vous a donné sur YOLO?
Alors, en fait, Camille et moi, on est très intuitives et on avait cette espèce de conviction absolue du fait qu'en fait, il fallait qu'on parle aux femmes. Et évidemment, quand on a commencé à dire ça, Il y a des femmes qui se sont beaucoup reconnues et qui ont dit mais bien sûr, vous avez trop raison. Et d'ailleurs, ce qui est aussi intéressant, et ça fait partie de la jeunesse de YOLO, c'est que on a fait un survey, on a envoyé sur plein de groupes Facebook. On a 400 femmes qui nous ont répondu, ça s'appelait les femmes et la charge mentale. 90% d'entre elles nous ont dit être en surcharge mentale tout le temps ou très souvent. Et devoir passer à minima une heure par jour à gérer des sujets personnels sur leur temps de travail. Ce qui est beaucoup. Oui. Ça veut dire que finalement, l'entreprise, ça représente 25 jours de travail par an que les femmes doivent passer à gérer des sujets personnels. Et quand on a commencé à parler d'YOLO, à parler sur LinkedIn de YOLO, on a eu une quantité de témoignages de femmes qu'on a reçu en message privé, mais on peut en faire un mur. Et donc là, on s'est vraiment dit avec Camille, on a touché du doigt quelque chose qui est hyper juste et qui surtout est très tabou. Mmh. Et donc, quand on a commencé à parler de YOLO à des DRH ou même à nos entourages, on a eu vraiment deux écoles. Une première qui était « Ouais, vous avez trop raison. » Et une autre qui était beaucoup plus « Ah non, mais il faut être hyper inclusif. Vous pouvez pas parler que des femmes. C'est pas possible. » Et en fait, ça nous a beaucoup perturbés pendant longtemps. On se demandait si on mettait quelque chose de féminin dans notre nom, si on le mettait pas, qu'est-ce qu'on faisait, est-ce qu'on s'adressait vraiment qu'aux femmes, comment on faisait. Et ça, ça a été une espèce de moment un peu compliqué parce qu'en fait, du coup, on n'arrivait pas à avoir suffisamment de conviction et donc finalement de porter de la mission comme on aurait voulu. Et puis à un moment donné, je ne sais plus, il y a quelqu'un qui nous a dit il vaut mieux avoir 100% d'une niche et vous serez beaucoup plus visible si vous êtes clivante et si vous arrivez à passer des vrais messages forts que si vous êtes beaucoup plus tiède parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont un peu tièdes. Et en fait, du coup, on a décidé de reprendre cette direction qui avait été notre intuition absolue et de la tenir et de plus se laisser entre guillemets envahir par
les bonnes idées de
voilà d'un et puis c'est la bien-pensance
oui. Oui voilà et puis surtout de reconnecter avec nos convictions profondes qui font que c'est ce qui nous drive au quotidien. Donc rien ne m'empêche que YOLO accompagne tout le monde, et d'ailleurs c'est ce qu'on fait. On doit avoir 20 à 30% d'hommes dans nos bénéficiaires aujourd'hui, mais notre combat et féminin et pour les femmes, parce que c'est notre vécu, c'est qui on est. Et YOLO aujourd'hui n'aurait pas pu être créé par des hommes parce qu'il vient d'un vécu de femme, un vécu de mère dans la société d'aujourd'hui. Et je pense que c'est pas un gros mot de le dire, il faut le dire. Et aujourd'hui, en fait, on le dit. Voilà.
Le message est entendu. Moi, j'adore connaître les premiers coups de culot des entrepreneurs sur leur projet.
Alors, notre premier coup de culot dans ce projet, bah, je dirais justement que c'est cette candidature à Elle Impact. Parce qu'en fait, donc on a lancé YOLO, comme on te l'a dit, il y a une toute petite année. Et moi, je fais partie d'un réseau féminin qui s'appelle IWF, dans lequel était aussi Sandrine. Et puis un jour, j'ai vu passer, elle disait, voilà, si vous connaissez des entrepreneurs autour de vous. Et moi, je connaissais pas Sandrine. Et du coup, je lui ai écrit un message, je lui ai dit, mais moi, je peux pitcher, ma boîte est toute jeune. Elle me dit, ah oui, pourquoi pas. Et Camille était en congé mat à ce moment-là, puisqu'elle avait accouché au mois d'octobre. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais faire le dossier, hein, franchement, on verra bien. Mais en me disant, bon, il n'y a pas vraiment de downside. Et puis, avec un peu de chance, au moins, ça nous rendra visible, quoi. Et effectivement, je me souviens très bien que mi-janvier, je reçois un mail en disant, vous êtes finaliste. C'est des trucs de dingue. On est en bêta test, on n'a rien en fait, si ce n'est notre culot et notre envie et notre audace. Et du coup, on est allé sans en attendre grand-chose. Et Sandrine a toujours été hyper supportive en disant « mais vous avez toute votre place ». Il y a quand même un sujet de légitimité, c'est-à-dire que pour le coup, tout ça, c'était très nouveau dans notre projet. Et en fait, c'est vrai que le fait qu'on remporte ce prix a crédibilisé et légitimé ce qu'était justement cette intuition et le fait qu'on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à construire et un problème à résoudre.
Vous avez bien fait.
On a bien fait.
Tu veux rajouter autre chose, Camille ?
Oui, pour moi, en fait, je dirais que le coup de culot, ça a été, notre association. Moi, j'étais enceinte de 6 mois, donc clairement, fallait projeter quand même un accouchement quand même assez proche au moment de lancer sa start-up, etc. Et au final, ça s'est très bien passé. Et surtout, en fait, on s'est toutes les deux livrées très intimement sur LinkedIn. Et pour moi, ça, c'est un coup de culot parce que je ne suis pas sur les réseaux sociaux, je n'ai pas Instagram, c'est pas quelque chose qui est naturel chez moi. Et en fait, on l'a fait toutes les deux et ça a été incroyable les retours qu'on a eus.
Quand tu dis se livrer, c'est-à-dire que sur LinkedIn, vous avez parlé de votre histoire?
Enfin, chacune, on a fait un post sur notre histoire. Moi, sur ma, sur mon postpartum, sur le postpartum vécu en entreprise, le tabou que c'était. Et à la fin, j'étais avec mon énorme ventre de 9 mois en disant, bah voilà, là, je monte ma boîte et j'y vais parce que justement, je vais adresser ces sujets-là. Et on a eu tellement de femmes qui nous ont répondu, en, d'ailleurs en message privé, parce qu'encore tabou, en disant, voilà, moi je suis dans telle boîte, je j'y arrive pas à concilier, on m'entend pas, je sais pas à qui parler. Et donc là, on s'est dit, voilà, et on s'est dit, il y a vraiment quelque chose, il y a véritablement de la souffrance, et on n'ose pas le dire. Donc ça, ça a été assez incroyable, je trouve.
Votre première big mistake?
Alors, moi, je dirais que c'est de ne pas avoir suivi notre intuition. Ce qui nous a servi depuis le début, c'est de la suivre. Et il y a des moments où on se fait rattraper en se disant « Non, mais on n'est pas sûr, du coup, on va laisser le doute, on va peut-être y aller quand même. » Et notamment sur nos sujets de recrutement d'alliés. Bon, on interviewe beaucoup, surtout Camille, et donc, en fait, il faut être capable de s'écouter très vite, quoi. Et en fait, il y a eu parfois des alliés où on s'est dit « Bon, sur le papier, c'est vraiment bien, mais bon, on n'est pas sûr. Bon, on y va quand même, parce que bon, peut-être que... » Et en fait, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et maintenant, on le sait, parce que du coup, on a eu quelques petites déconvenues en proportion, pas beaucoup, mais c'est jamais très agréable, c'est pas des moments agréables.
Surtout quand t'es en phase de lancement.
Exactement. Donc, on a la chance d'avoir des bénéficiaires qui donnent un élan à ce projet, qui nous portent, qui nous supportent et qui sont vraiment... voilà, très chouette avec nous, mais comme on veut faire quelque chose qui est exceptionnel en termes de service, c'est vrai qu'on essaye de le faire le mieux possible. Mais du coup, pour moi, la mistake, c'est justement ces moments où on a décidé de ne pas écouter notre intuition profonde. Et en fait, c'est une
erreur. Parce qu'il y avait aussi une urgence.
Ouais. Parce qu'en fait, nous, notre enjeu, c'est d'avoir un vivier d'alliés suffisant pour faire face à une demande de bénéficiaires, sachant que quand on a un contrat avec une entreprise, on ne sait pas exactement combien de bénéficiaires va y avoir. Et une fois qu'on le sait, le temps d'arriver au moment où on démarre vraiment avec eux, ça prend du temps. Et donc, il faut qu'on soit capable d'avoir un vivier et de pouvoir être très réactif. Mais parfois, il y a des temps de latence. Donc, tout ça, c'est quand même une gymnastique qui n'est pas toujours simple. Et du coup, maintenant, ça ne sera plus le cas parce qu'on a vraiment le vivier. Mais au départ, parfois, on a dû faire des choix. Et puis, on a compris quelques petites erreurs qu'on ne refera plus.
Toi, Camille, tu veux nous en partager une?
Alors... En fait, avec Rebecca, on souhaite monter une boîte avec une grosse composante tech, mais ni Rebecca ni moi sommes tech. Après, moi, j'ai monté une école de code, mais je ne suis pas tech pour autant.
En
Afrique du Sud, oui, sur le modèle de l'école 42, justement.
Okay.
Et donc, en fait, on a voulu... on s'est fait accompagner... Enfin, on a voulu se faire accompagner... Enfin, on s'est fait accompagner par un start-up studio parce qu'on pensait qu'on ne savait pas. Et qu'on n'y arriverait pas toute seule, et voilà. Et au final, ça, je pense que c'était une big mistake, parce qu'on n'a rien appris, qu'on aurait très bien pu le faire toute seule.
Et ça nous a coûté beaucoup d'argent.
Et ça nous a coûté beaucoup d'argent au tout début de notre aventure, donc on n'en avait pas beaucoup. Et donc, voilà.
Et ça vous rassurait à ce moment-là?
Ça nous rassurait d'être accompagnés, mais en fait, on était accompagnés par quelque chose de beaucoup trop... Enfin, pas assez lean, pas assez bootstrap, comme on l'est, en fait, depuis le début. Et voilà, et on s'est mis dans ce... on s'est mis là-dedans parce qu'en effet, ça nous rassurait.
C'est une caution rassurance qui nous a coûté un peu cher.
Voilà.
Mais ce qui arrive souvent, du coup, c'est bien de la partager.
Mais ce qui est génial dans cette aventure, c'est qu'en fait, maintenant, on sait qu'on peut tout faire.
Voilà.
Non, mais vraiment. C'est-à-dire que je pense que maintenant, en vrai, il n'y a plus grand-chose qui nous fait peur.
Bon, on ne s'est pas encore codé, mais...
Non, mais on a développé notre tech en no-code et aujourd'hui, on s'est fait accompagner par quelqu'un qui est extrêmement smart et qui nous a vraiment permis d'aller très vite sur le marché en no-code. Et l'intérêt de ça, c'est qu'on peut brancher, que nous-mêmes, on a la main sur plein de choses et qu'en fait, il y a des bouts de workflow, de choses qu'on peut faire tout seul.
Ça nous permet d'être agile.
Ça nous permet d'être super agile. Donc même ça, maintenant, pour partie, on est capable de le réembarquer seul et ça, c'est chouette.
Votre premier renoncement?
Depuis YOLO?
Mmh.
Oh, moi, j'ai pas l'impression qu'on ait... Enfin, en tout cas, me concernant, j'ai pas du tout l'impression d'avoir renoncé. Au contraire, j'ai moi l'impression d'avoir, enfin trouvé mon chemin, mon alignement, d'avoir une énergie de dingue, d'être beaucoup plus...
Alignée.
Ah ouais.
Et toi, Camille?
Alors moi, j'ai dû renoncer à quelques exigences perfectionnistes.
Ok, c'est vrai.
Pour suivre le rythme. Mais au final, je pense que
je m'en sors. Tu dis ça avec beaucoup d'humour aussi.
Oui, parce que j'ai quand même réussi à imposer quelques cadres, quelques logos bien positionnés et quelques typographies bien choisies. Mais non, sinon non. Je pense qu'en fait, et ça a été je pense que c'est une force aujourd'hui, c'est notre marque. Mais c'est vrai que quand on est pris la tête dans le guidon, qu'on veut avancer vite, on peut oublier l'importance d'une belle marque, que ce soit d'un point de vue graphique ou typographique. Et je pense que ça, c'est important. Ouais.
Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous.
C'est l'instant canapé. J'ai changé l'ordre de mes questions parce que du coup, ça me titille, parce que tu viens de nous parler de ton perfectionnisme, ton goût pour le logo bien mis, la jolie typo, etc. Avant YOLO, tu faisais quoi, Camille ?
Avant YOLO, j'étais en Afrique du Sud. Mmh. J'ai monté un réseau d'écoles de code qui s'appelle toujours WeThinkCode. Et on a été une des premières licences de l'école 42 dans le monde. Et aujourd'hui, WeThinkCode, c'est 3 écoles en Afrique du Sud et qui va s'étendre en Afrique. Et voilà. Et avant ça, j'avais monté une fondation dans l'éducation. Je n'ai jamais été dans le branding ou le marketing, mais j'ai grandi. Mes deux parents étaient très, très marketing. Donc, j'ai grandi dans l'importance de la marque, du design, du beau. Et pour moi, c'est très important.
À quoi tu rêvais, toi, Rebecca, quand tu étais petite ?
Je voulais être trapéziste.
Trapéziste,
voilà.
Il y a un petit parallèle avec l'entrepreneur quand même.
Oui, c'est je pense que c'est le sujet de la liberté, pour moi, extrêmement important. Le fait de, finalement, avoir cette espèce de sentiment que tout est possible et que, en fait, sky is the limit, quoi. Ça, c'était mon truc.
Et toi, Camille, t'es évolué dans cet univers de la marque, du beau, du marketing ?
Pas du tout. Moi, je voulais être maîtresse d'école.
Ah oui, bah c'est voilà. Très original.
Très original.
Mais du coup, il y a quand même un lien avec...
Je suis allée au bout de mon rêve. J'ai été maîtresse d'école de codeur et pas vraiment maîtresse parce qu'il n'y avait pas de prof. C'est le principe de l'école 42. Mais je suis allée au bout de ça. Et l'éducation me fascine toujours autant et me passionne. Mais aujourd'hui, j'ai switché.
Est-ce que toutes les deux, il y a des personnes en particulier qui ont marqué votre parcours de vie, que ce soit parcours de vie pro ou perso, et dont vous voudriez nous parler ?
Dans parcours de vie pro, moi je crois que j'ai eu la chance, j'ai démarré ma carrière en sortant de l'ESSEC, je suis rentrée dans des banques américaines, et en fait... je nommerai pas quelqu'un, mais l'écosystème dans lequel j'ai évolué a été une grande chance pour moi parce qu'en fait, c'était... j'ai été bimbronnée au woman empowerment. Ouais. Les anglo-saxons, surtout dans l'univers de la finance qui était très masculin, avaient vraiment pas de problème à mettre en place la discrimination positive et à vraiment voilà donner aux femmes qui avaient envie et qui jugeaient pertinentes la possibilité de pouvoir y aller, de pouvoir s'envoler. Et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup porté. Parce qu'en fait, ça m'a fait comprendre non seulement que le système éducatif français était quand même très limité, parce qu'en fait, on ne développe pas tous les soft skills, justement, qu'on ne fait pas un projet de groupe avant d'arriver dans une grande école, qu'on ne nous apprend pas à parler. Donc moi aussi, j'ai fait un choix d'éducation pour mes enfants qui est très différent. Mais du coup, c'est vrai que ça m'a permis d'avoir une vraie carrière corporate sur lequel je me suis jamais limitée parce que j'ai compris en fait que si j'attendais qu'on remarque la qualité de mon travail, je pouvais attendre longtemps. Si je voulais aller avoir un bonus, il fallait que j'aille le demander. Si je voulais le poste d'après, même si je cochais pas tous les critères, c'était OK. Et donc ça m'a quand même vraiment beaucoup porté. Et puis après, j'ai eu la chance dans mon parcours de rencontrer, enfin d'être chassée pour un poste qui était donc mon dernier poste salarié, où j'étais donc dans ce comité de direction, où j'ai quand même un patron qu'on peut juger d'audacieux, qui a quand même décidé de faire entrer dans son comité de direction une femme de 35 ans, enceinte de son troisième enfant, pour prendre toute sa direction du développement. Et c'est vrai que moi-même, je m'y voyais pas en fait. donc ça, ça a quand même été une grande chance. Et puis j'ai aussi eu dans tout mon parcours d'entreprise des coachs. Qui ont été vraiment importants pour moi, dont une qui s'appelle Nathalie, qui m'a accompagnée longtemps et qui m'a vraiment permis de faire sauter toutes les limites ou le syndrome de l'impostrice que je pouvais avoir par moment et qui m'ont beaucoup apporté.
Et ça, tu recommanderais justement ce travail de coaching? Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent être accompagnés justement.
Moi, je pense que c'est vraiment important. Moi, j'ai été accompagnée en tant que salariée parce qu'en fait, voilà, j'ai pris tôt des postes de management, de direction. Donc évidemment, parfois, ça pouvait être un petit peu compliqué. Moi, ça m'a vraiment toujours beaucoup aidée parce qu'en fait, c'est très compliqué parfois de tenir des postures qui sont pas forcément faciles, et c'est vraiment important d'avoir un regard extérieur qui soit pas celui de son manager auprès duquel on puisse vraiment se livrer. Moi j'ai fait, en sortant du coup de l'entreprise qui était la mienne jusqu'à l'année dernière, j'ai demandé un accompagnement à la reconversion professionnelle. Donc j'ai fait un outplacement en entrepreneuriat, et ça m'a aussi beaucoup aidée parce qu'en fait quand on fait 15 ans la même chose, à différents échelons, mais le même métier, on a l'impression qu'on ne sait faire rien d'autre. Et en fait, c'était très compliqué pour moi d'arriver à convertir tout ce que j'avais développé pendant ces 15 ans en quelque chose d'autre. Et donc, c'est vrai que le fait d'avoir cet accompagnement-là, cette capacité d'avoir quelqu'un qui me challenge, qui m'aide à prendre du recul, qui me dise « mais ça, c'est génial, mais ça, bien sûr que tu peux t'en servir, mais ça, ça dit ça de toi », en fait, ça m'a permis finalement, pour revenir au point de l'énergie de Camille, d'avoir une vraie cartographie de ce qui étaient mes forces, mes points de difficulté, de ce dont j'avais besoin, de ce qui était mon énergie, de ce vers quoi il fallait que et de pas me perdre finalement en retournant un peu dans ma zone de confort qui était celle d'avant en fait. Et donc moi je pense que c'est extrêmement utile, extrêmement important.
Une sorte de reset positif.
Exactement.
Et toi Camille ?
Moi je dirais que c'est en fait Sébastien Breteau, c'est un entrepreneur français. C'est lui qui m'a donné ma première chance entrepreneuriale parce que c'est pour lui que j'ai créé la fondation, sa fondation d'éducation. Et en fait, on a travaillé. Enfin voilà, il m'a vraiment donné ma chance et on a monté ensemble cette fondation pendant 4 ans. Et c'est ça qui m'a amené en Afrique du Sud. Et c'est lui, maintenant, je me rappelle. C'est lui qui était ultra, enfin qui est ultra perfectionniste. Et en fait, je ne pouvais pas arriver avec une présentation si c'était pas parfait, mais de A à Z. Et en fait, sa réussite à lui aujourd'hui vient de là. Le fait qu'il a jamais, jamais, jamais lâché.
Un bel exemple.
Donc un très, très bel exemple. Et voilà. Et sinon, ma cofondatrice aussi dans We Think Code, que j'ai rencontrée, j'avais même pas 30 ans, et on a vraiment grandi ensemble avec cette aventure qui était incroyable. Et elle m'a apporté autant sur le pro que le perso. Comme je vous disais au début, on avait une thérapie de couple et c'était super. Ça m'a énormément appris justement pour cette nouvelle association et aussi sur moi. Et c'est vraiment une chance. Avec Rebecca, on veut vraiment mettre en avant le fait qu'on est deux. Si on fait des interviews, c'est à deux. Si on pitch des prix, c'est à deux. Parce que c'est une chance en fait cette association. Il faut mettre en avant les équipes féminines. Elles ont, l'année dernière, je pense qu'il y a zéro équipe féminine qui ont levé d'argent. Et donc, c'est très important et on apprend énormément de l'autre.
Ah, je croyais que tu voulais rajouter quelque chose.
J'écoutais avec intérêt, au contraire. Moi, j'ai grandi dans une famille d'entrepreneurs. J'étais la première salariée sur 3 générations.
D'accord.
Donc, autant te dire que c'est un peu l'OVNI. mon père est entrepreneur, ma mère est avocate, mes grands-pères étaient chacun chef d'entreprise, mon mari est entrepreneur. Enfin voilà, moi, je n'ai grandi que dans cet univers-là. Mes oncles, mes tantes, mais tout le monde, c'est pas une blague, vraiment.
Mais tu es revenue aux sources.
Et donc, je crois que j'en suis jamais vraiment partie. Simplement, j'ai réussi dans un monde d'entreprise à quand même réussir à faire mon chemin. Et d'ailleurs, mon dernier poste, j'ai été recrutée parce que j'étais disruptive et que j'allais donner des grands coups de pied, tu vois. Donc, c'était mon mandat. Donc voilà. Donc, ça fait partie des choses qui
étaient vraiment... T'en forger aussi.
Ouais, bien sûr.
Toi, Camille, aussi, milieu entrepreneur ou pas du tout?
Pas du tout. Pas du tout, mais... que ce soit mon père ou ma mère, très, très libre, très disruptif, très dans l'innovation... Et que ce soit mon frère, ma sœur ou moi, on est tous les trois entrepreneurs. Donc je pense qu'on a hérité de cette liberté d'esprit, de convictions fortes et d'une envie de casser les tabous et faire bouger les lignes. Et on s'est dit que ce serait plus simple de le faire en dehors du monde de l'entreprise.
Le sujet des femmes, c'est quelque chose qui nous a toujours habité. Moi, je me souviens, j'étais petite, j'étais aux manifestations de Ni Putine Soumise avec ma mère. J'étais toutes les manifs, ma mère hyper militante. Et donc, voilà, le droit des femmes, ça a toujours été... j'ai grandi vraiment là-dedans. Voilà, je pense que pour le coup, ça fait partie des choses dont on avec lesquels on grandit et qui forge ce qu'on est et finalement aujourd'hui elle me dit t'es même plus féministe que moi alors que franchement c'est un compliment parce que c'était très très compliqué vu la barre était très haute.
Donc c'est partie des transmissions qu'elle t'a données. Et toi, c'est quelque chose que tu transmets à tes enfants?
Ah oui, alors moi j'ai un garçon, mon aîné, et deux filles. Et j'ai eu très très tôt une conscience du sujet du genre et de la problématique du genre parce qu'en fait j'ai rencontré pour le coup notamment quand j'étais chez Goldman Sachs notamment Brigitte Grisi et Catherine Vidal qui est neurobiologiste qui travaille sur les sujets du cerveau et en fait et tout le sujet du genre et sur le fait qu'en fait aujourd'hui il y a des stéréotypes de genre incroyables qu'on reproduit de manière totalement inconsciente qui en fait il y a beaucoup plus de différence entre un cerveau d'une femme française et une femme indienne qu'un cerveau d'un homme français et d'une femme française. Et qu'en fait, c'est nous qui en fait créons nous-mêmes la difficulté qui est celle de nos filles, mais aussi de nos fils qui sont enfermés dans des modèles très compliqués. Et donc moi, cette conscience du genre, je l'ai eue très 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 tôt. Et du coup, en fait, c'est vrai que j'ai une grande conscience à la fois du fait de donner à mes filles le plus de chances possible de pouvoir avoir tous les choix possibles dans leur vie de femme. Et ça passe aussi notamment par le sujet de l'éducation, du choix de l'école. Mes enfants sont dans une école qui est bilingue, hors contrat, qui est très tournée vers les sciences du numérique, qui pousse les filles vers les maths et les filières scientifiques autant que possible et autant que de besoin. Et à côté de ça, d'avoir un garçon qui est pas du tout enfermé dans un modèle, dans une posture qui serait pas bonne pour lui en tant qu'adulte et qu'il est qui soit très ouvert et très sensible. J'ai une photo de lui, il avait 5 ans, il disait tu seras féministe mon fils. Donc voilà, c'est une grande conscience pour moi.
Et ton mari te suit là-dessus, j'imagine.
Mon mari me suit parce qu'il a pas trop le choix. Il vient d'une famille plus traditionnelle, je dirais. Mais il s'oppose pas, donc je pense que c'est une forme de consentement. Et puis je crois que pour vivre avec quelqu'un qui a les convictions qui sont les nôtres, il faut à un moment donné les acheter pour partie ou tout du moins avoir considéré que le combat était perdu.
Toi Camille, il y a quelque chose que tu retires de ta relation avec ta maman?
C'est-à-dire que je retiens
De la même manière que Rebecca vient de nous parler de cette transmission du féminisme et de ces manifs et de ces choses voilà, qui ont été inculquées finalement. D'accord. Depuis l'enfance.
Non,
est-ce que toi, il y a quelque chose en termes de transmission que tu tires de ta maman?
Ouais, une très très belle liberté de vivre, pas du tout conventionnelle, anti-conventionnelle. Ne pas être dans les normes, ne pas avoir les codes, casser les codes, dire haut ce que tout le monde ne dit pas. Donc ça peut être assez compliqué quand on est enfant. mais au final, c'est une véritable liberté d'esprit. Et donc ça, complètement.
Alors, vous nous l'avez dit au micro que vous rentriez d'une retraite entre associés. Plus globalement, dans le quotidien fou de la vie d'entrepreneur, qui va à 150 000 à l'heure, comment vous vous ressourcez et vous arrivez à reprendre justement cette énergie, trouver de l'inspiration et continuer à aller toujours de l'avant?
Je pense que le fait qu'on monte cette boîte à ces moments-là dans notre vie. Donc moi, j'ai quand même un petit garçon qui aujourd'hui a 6 mois, 7 mois.
Il
fait ses nuits. Et un autre qui a 4 ans. Mais je pense qu'on se comprend. Et pour nous, ce qui est très important, enfin en tout cas pour moi, ce qui est très important, c'est d'avoir du temps pour mes enfants. Et d'avoir du temps pour moi, et ça passe par le sport. Donc je nage beaucoup et je fais du yoga. Et ça, c'est sine qua non pour pouvoir ensuite créer, inventer, monter YOLO quoi.
Et toi, Rebecca ?
Camille est bien plus forte que moi sur ces sujets. Moi, je suis capable de m'oublier très vite. Et d'ailleurs, ça a été une grande difficulté qui a été la mienne dans ma vie précédente. C'est que j'ai pas beaucoup de sommeil, j'ai une très grosse force de travail et je peux me mettre en mode machine très vite et très longtemps. C'est un grand travail sur moi que j'ai fait depuis un an de me remettre au centre, d'essayer de comprendre ce qu'étaient mes envies, mes besoins, de bloquer du temps dans mon agenda au même titre que d'autres choses qui sont importantes pour justement prendre des temps pour moi. J'ai repris le piano il y a un an. J'avais fait très longtemps de piano, j'avais arrêté très longtemps et j'ai repris et ça me procure beaucoup de plaisir.
Toute seule ou avec un prof ?
Non, j'ai un prof. Ouais. Mais j'ai retrouvé un niveau que j'ai jamais eu en fait. Ouais. Donc, quand on le fait en tant qu'adulte, c'est pas la même chose. C'est vrai que, voilà, je sais que, enfin, Camille, elle a son équilibre, elle a des moments importants pour elle dans la semaine. C'était pas du tout mon mode de fonctionnement au début. Et en fait, c'est elle qui a raison. Et maintenant, je fais en sorte de me les imposer. Non, mais je pense que c'est vraiment, c'est bien plus sain, sa façon de voir les choses de ce point de vue-là que la mienne. Mais pour moi, c'est un vrai effort, en fait.
Mais même, j'oblige Rebecca, quand elle part en vacances, à ne pas connecter. À vraiment, vraiment déconnecter parce qu'on se rend compte, quand on arrive à couper, même si c'est 3 jours, après on revient, on a des idées, on a des nouvelles idées, on a des façons de voir les choses différentes, le prisme change, on a vraiment oxygéné notre cerveau, enfin aussi simplement que ça. Donc je pense que c'est important de
prendre le temps de lever le pied.
Ouais.
Parce que c'est notre projet.
Alors, je ne vous demande pas de crier aussi fort.
Pourtant, on fait ça bien.
Alors, si vous voulez, vous pouvez le crier. On a tous les droits dans ce studio cet après-midi. Vous pouvez devenir présidente de la République, première ministre, ministre du ministère qu'il vous sied. En tout cas, si c'était le cas, quelle première mesure vous prendriez ?
Alors moi, et d'ailleurs, c'est complètement dans l'air du temps, je repenserai le rapport au travail. Complètement. Je pense que l'idée d'un travail de 9 à 5, de 9 à 7, avec 5 semaines de vacances, la retraite à 64 ans maintenant, c'est complètement has-been. Que c'est un monde du travail qui a été créé par les hommes et pour les hommes et qui prend pas du tout en compte les réalités de vie des femmes, mais aussi les réalités de vie des hommes qui veulent vivre autrement, des familles monoparentales qui sont aujourd'hui un quart quand même des familles en France, donc à un moment donné il va falloir s'adapter aussi à l'époque dans laquelle on vit, des aidants et donc d'apporter beaucoup plus de flexibilité, d'accompagnement, donc du life care, donc on a le child care, mais du life care. Et voilà, le pro est rentré dans le perso rentre dans le pro, et on a plus cette espèce de dichotomie, quand on disait avant, le perso n'a pas la place dans le pro. Bah, à 14h30, je suis en pleine réunion, je suis encore maman d'un petit garçon de 4 ans qui est malade. Donc c'est complètement... Et je sais que mon mari aussi en souffre, parce que un père aujourd'hui qui part à 16h30 pour accompagner son fils chez le pédiatre, c'est mal vu. Voilà. Et ça, c'est pas normal.
Et est-ce que tu irais jusqu'à obliger, par exemple, la semaine de 4 jours ?
Alors moi, je suis pas forcément pour la semaine de 4 jours, parce qu'elle peut ne pas convenir à tout le monde. Et j'ai déjà fait la semaine de 4 jours. C'est un peu du bullshit, parce qu'au final, le cinquième jour... on bosse, peut-être sur des sujets plus stratégiques. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait, c'est ce que je fais chez Yolo. C'est-à-dire que le vendredi, c'est plutôt des sujets plus profonds, plus stratégiques. Donc, je n'irai pas obliger la semaine de 4 jours. En revanche, elle ferait partie d'un catalogue d'options, de possibilités de flexibilité. Mais ça peut aussi être travailler jusqu'à 17h pour pouvoir récupérer ses enfants à l'école et passer l'après-midi avec eux. Et dans ce cas-là, un vendredi, au final... est tout aussi bénéfique, en fait, d'une certaine façon. Mais donc, en fait, chacun doit pouvoir avoir la flexibilité dont il a besoin et que le rapport au travail soit pas basé sur les horaires, mais sur la performance et sur ce qu'on délivre plutôt que du présentiel. Donc, moi, je pense que si j'étais présidente, je réinventerais le rapport au travail pour qu'il soit adapté à notre vie d'aujourd'hui.
D'ailleurs, voilà. Si on pouvait faire un petit appel, on aurait besoin de rencontrer le ministre du Travail.
Voilà.
Et Isabelle Rome, ça serait génial parce qu'on a beaucoup de sujets pour eux.
Et beaucoup d'idées.
Et beaucoup d'idées, exactement.
Le message est passé, mais pas grave.
C'était l'occasion. Trop belle.
Et toi, Rebecca ?
Moi, je suis... Bon, évidemment, c'est nos sujets quotidiens, donc voilà. Après, moi, je... En fait, pour moi, il y a des choses... Je ne sais pas si j'empiète pas sur ta rubrique coup de gueule, mais... Il y a des chiffres, moi, qui m'horrifient. En fait, je trouve ça absolument incroyable qu'aujourd'hui... Une femme sur deux modifie son temps de travail dès une première maternité, que 45% des femmes refusent un poste exécutif pour des raisons familiales, ou que 82% des femmes cadres disent que la difficile conciliation vie pro-perso affecte leur santé mentale. Aujourd'hui, c'est pas la société dans laquelle j'ai envie de vivre, c'est pas le monde auquel je crois, c'est pas le monde que je veux pour mes filles. Et pour moi, ce sujet vraiment de transformation des organisations, mais qui doit être à un moment donné sponsorisé, soutenu par l'État, parce que à un moment donné... Il y a beaucoup de sujets de fond. La France fait des choses, bouge des lignes. On parle du congé paternité, super, un mois, génial, c'est bien. Mais c'est très, 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 très insuffisant. Enfin, je veux dire, le besoin, les inégalités entre les hommes et les femmes, elles se créent au moment même où on démarre cette grossesse et où il y a des rendez-vous chez le médecin, où finalement on est toute seule pour aller acheter tout ce qu'il faut, où les rendez-vous on les fait pas avec son conjoint. Enfin, et en fait, le fait d'avoir 4 mois avec son bébé pour une femme et 1 mois pour un homme, qui prend peut-être, si jamais il se rend compte que ça va pas trop poser de problème dans sa boîte, parce que c'est quand même pas encore très bien vu, et ben en fait, tout ça, ça crée ces inégalités qui conduisent à la fin à ce qu'on se retrouve dans cette situation. Et pour moi, ça, c'est un vrai combat de transformation de société qui doit passer par des solutions comme la nôtre, mais parce qu'en fait, c'est un moyen au service d'une fin qui est bien plus large. Mais c'est vraiment un sujet de transformation de société. Et tant qu'on ne tiendra pas compte de ces réalités de vie, pour moi, la semaine de 4 jours, pour rebondir sur ton point, c'est absolument pas... pour moi, c'est pas une solution. C'est pas une solution parce que, déjà, d'un point de vue compétitivité de la France, je comprends pas comment on fait face à des pays qui travaillent 80 heures par semaine. Donc, c'est quand même un premier point. Mais au-delà de ça, si c'est pour travailler 4 jours, l'équivalent de 5 jours, et qu'en fait, tu sois juste au bout du rôle sur 4 jours et que le 5e jour, t'essayes de t'en remettre, je trouve que ça n'a aucun sens. Moi, je crois beaucoup plus à cette idée de work-life integration, quoi, de dire qu'il y a un moment donné où, bah, en fait, peut-être que travailler toute sa vie pour arrêter à un moment donné, ça n'a aucun sens non plus, et qu'il faudrait pouvoir faire des pauses bien plus importantes dans sa carrière, mais que sa carrière puisse durer plus longtemps. Enfin, c'est vraiment une acception totalement différente des choses qui, à mon avis, serait bien plus vertueuse pour l'ensemble du système.
Bon, en tout cas, on attend avec impatience votre rendez-vous avec...
nous aussi.
On est prêtes.
Wow. Le Covid a été une grosse claque pour tout le monde. Ça, maintenant, au bout de 3 ans, on le sait. Mais quel serait pour vous un autre événement en positif ou en négatif que vous voudriez nous partager comme claque?
Alors, pour moi, ça a été la maternité.
Oui.
Franchement, enfin, je dis toujours que je suis devenue féministe en devenant maman, parce que jusqu'à la naissance de mon premier fils, j'ai eu de la chance, mais j'ai jamais ressenti le fait que d'être une femme me bloquait, que ce soit dans mes choix d'éducation, choix de job, choix de carrière, opportunités, etc. En revanche, j'ai eu un postpartum compliqué et difficile, mais et c'est là où je me suis rendu compte de la complète inégalité, en fait. Et c'est hyper sympa de nous mettre un siège dans la salle de réunion pour qu'on puisse allaiter, mais ça va franchement pas résoudre le problème. Donc, il y a des mesures cosmétiques qui servent à rien, qui sont juste pour se donner bonne confiance, conscience, et bonne confiance aussi. Mais je trouve que, voilà, la maternité pour une femme, c'est le moment où il y a le plus de changements dans son cerveau, en fait. Hormonalement,
que tu peux pas anticiper en plus.
Que tu peux pas anticiper, postpartum ou pas. Hormonalement, c'est quand même un immense roller coaster pour beaucoup. Et ça, personne ne le dit, personne ne le prend en compte. Voilà. Enfin, moi, j'estime que, étant enceinte de mon enfant, je fais une offrande. Voilà, j'offre mon corps, j'offre mon état à d'abord notre famille, mais aussi à la société, parce que c'est un nouveau citoyen qui va grandir, qu'on va éduquer avec mon mari, et donc ça doit être pris en compte, ça doit être valorisé, beaucoup plus valorisé, beaucoup plus intégré. Donc moi, ça a été une énorme claque parce que je m'y attendais pas du tout.
Parce que tu pensais revenir comme avant, enfin en partant, tu pensais revenir comme avant.
Oui, je pensais pas que ça allait autant me changer en fait. que ça allait autant me changer, autant me bouleverser, autant bouleverser notre couple.
Des gens t'en avaient parlé ou t'avais pas du tout été informée
Si, j'avais été informée, mais en fait, tant qu'on l'a pas vécu, je pense que c'est compliqué de se mettre dedans. Parce que...
Puis chaque histoire
est différente. Et les gens parlent aujourd'hui. C'est pas du tout... On n'est plus à dire que grossesse, maternité, formidable, meilleur moment de ma vie. mais c'est quand même difficile tant qu'on l'a pas vécu de... Voilà. Et je pense que j'étais tellement libre aussi... que ça m'a, bah d'ailleurs, ça m'a re-responsabilisée, mais ça c'est plutôt positif. Mais donc du coup, la maternité était une grosse claque et tant mieux. Hein, je suis tellement heureuse d'être maman aujourd'hui, mais par rapport à mon rôle social, ça a été compliqué.
Merci. Toi, Rebecca?
Alors moi, j'ai l'impression d'être revenue de mes congés mat comme j'étais partie. C'est-à-dire que j'ai pas du tout le même ressenti que Camille. Moi, j'ai adoré mes grossesses. Voilà. Bon, après, moi, j'ai un parcours de maternité vraiment compliqué. Donc, j'ai dû être très médicalisée. Ça a été très long. J'ai donné vraiment mon corps à la science pendant 7 ans. C'est long, 7 ans.
Ouais, c'est long.
Avec voilà un parcours compliqué et qui a été mené avec une carrière. Mais du coup, je crois que j'ai pas trop eu le temps de me poser toutes ces questions. Et en fait, je me suis vraiment mise en mode robot, comme je sais très bien le faire. Non, en revanche... moi, je dirais que le sujet, enfin le Covid pour moi était vraiment une claque, même si, enfin je sais que ça a changé la vie de plein de gens, mais ça a vraiment changé la mienne parce que déjà s'il y avait pas eu le Covid, je pense qu'il y aurait pas eu YOLO, en tout cas me concernant. Je pense que je serais pas sortie de la feuille qui était la mienne et dans laquelle je gravitais en me disant je peux aller partout dans la feuille, mais elle ne sort pas de la feuille. Et en fait, le Covid pour moi était vraiment le déclencheur de la sortie de la feuille et du fait qu'en fait ça a été le moment où j'ai identifié un vrai sujet, une vraie problématique que j'ai voulu résoudre. Et ça pour moi ça a été une claque aussi parce que ça a été une période compliquée pour tout le monde, ça a été une période compliquée professionnellement pour moi, qui ensuite m'a amené à partir. Ça a été, voilà, ça a chahuté beaucoup, beaucoup de lignes. Et en fait, ça a été aussi le début du nouveau moi. Tu vois, donc c'est une claque et en même temps, ça a été un grand renouveau pour moi, la période qui a suivi.
Une claque positive.
Exactement.
Carte blanche pour 40 nuances de Next.
C'est le moment où je vous laisse chacune le micro pour un coup de gueule, coup de cœur que vous voulez nous partager.
Ok, donc c'est apparemment c'est moi qui commence. Moi j'ai un coup de cœur. J'ai lu un livre que j'ai adoré qui s'appelle L'heure des femmes de Adèle Bréau. C'est une autrice que j'adore depuis longtemps. Et donc je me suis dit tiens, nouveau livre, super. Et en fait c'est pas juste un nouveau livre, c'est en fait l'histoire d'une femme qui s'appelle Ménie Grégoire. Et Ménie Grégoire c'est en fait c'est sa grand-mère. Et donc, en fait, elle raconte l'histoire de Ménie Grégoire que moi, j'ai complètement découverte, hein, parce que c'est clairement pas ma génération. Mais c'est une femme qui a transformé la société française en donnant enfin aux femmes la parole à une heure où les hommes travaillaient, dans les années 60 et 70, qui a été la première à justement tenir un micro ou appeler des femmes pour finalement mettre en lumière toutes les profondes difficultés et le sexisme de la société de l'époque, et qui ensuite a permis aussi finalement l'éveil sexuel des femmes en ayant ensuite une émission de radio sur le sujet de la sexualité. Et en fait, j'ai adoré découvrir cette histoire et qui en fait m'a beaucoup fait penser à ce qu'on fait aujourd'hui. Parce qu'en fait, moi je suis très frappée de voir à quel point aujourd'hui quand on accompagne une femme en entreprise, quel que soit son niveau de seniorité, top exécutif ou pas du tout, le moment où on lui dit bah voilà, tu vas avoir une alliée, elle s'appelle Intel, les femmes se livrent avec une facilité déconcertante et elles nous ramènent tout de suite leur solitude, leurs difficultés. Et en fait, on sent qu'il y a tellement besoin de parler. Et en fait, on le voit vraiment. Moi, chaque fois que je fais un onboarding, à la fin, j'appelle Camille, je lui dis « Mais qu'est-ce qu'on va faire de ça ?» Parce qu'en fait, vraiment, moi, j'ai le sentiment qu'en fait, on touche du doigt quelque chose de vraiment sociétal qui doit être dit, dont il faut qu'on arrive à faire quelque chose. Et en fait, dans le livre d'Adèle Bréau, elle montre qu'en fait, il y a des archives des 25 ans en fait, de radio de sa grand-mère qui sont consultables, où il y a l'histoire des femmes en France, en fait. Et ce livre m'a beaucoup touchée parce qu'effectivement, Ménie Grégoire gagnerait à revivre parce que voilà, ce qu'elle a fait exceptionnel. Et ça m'a fait beaucoup écho à ce que nous, on vit aujourd'hui avec YOLO.
Ben, un livre à découvrir.
Ah ouais, vraiment, je vous y invite.
Merci. Camille ?
Alors moi, c'est plutôt un coup de gueule. Après, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est le principe de l'éducation, c'est la répétition. mais c'est... Voilà, c'est le fait, on a été justement à une remise de prix et il y avait, ils ont publié, enfin il a été publié il y a longtemps, mais ils ont parlé du rapport du sexisme en France du Haut Commissariat de l'égalité. Et aujourd'hui, il y a encore 50% des hommes qui pensent que c'est normal qu'une femme s'arrête de travailler pour s'occuper de ses enfants. Il y a 87% des femmes qui vont mettre en place des stratégies d'évitement pour contrer le sexisme, enfin par rapport au sexisme. Et il y a un tiers ou un quart, je ne me rappelle plus, c'est un quart ? Un quart des hommes de moins de 35 ans qui pensent que c'est normal d'utiliser la violence pour se faire respecter à la maison.
Moins de 35 ans, t'imagines ?
C'est énorme.
Donc, c'est-à-dire que même la génération suivante, voilà.
Oui.
Et en fait, c'est un énorme... Enfin, on se dit, on est en France, c'est incroyable. C'est un énorme problème de sexisme, mais aussi de liberté. Les stratégies d'évitement, le fait que les hommes pensent que c'est normal qu'une femme s'arrête de travailler... Et voilà. Et je pense que le coup de gueule, c'est de dire qu'il faut, ça y est, maintenant, on a les chiffres, ils sont en lumière, il faut qu'on puisse dire les choses. Donc, tous ceux qui disent, mais il faut être inclusif, faut pas parler que des femmes. Non, on parle des femmes parce que le sujet est là. Il faut en parler et il faut mettre en place des solutions qui vont répondre à ces sujets. C'est pas possible qu'une femme en France aujourd'hui ait peur de mettre en place des stratégies d'évitement.
Dans la rue.
Se disent qu'elle n'a pas sa place dans le monde du travail. Voilà. Donc ça, c'est mon coup de gueule.
Est-ce que... alors, ce que vous faites un peu aujourd'hui avec cet exercice, entre guillemets, du podcast, mais est-ce que vous avez pour ambition avec YOLO de... généraliser en fait ces coups de gueule et cette prise de conscience en tout cas par différentes formes au-delà du coup du produit et de la solution que vous vendez.
Aujourd'hui on le fait beaucoup sur LinkedIn.
Ouais.
si tu me suis tu verras que j'ai pas la langue dans ma poche sur vraiment beaucoup de sujets. Mais voilà, notre projet c'est au-delà du lot, c'est de faire bouger des lignes. Vraiment, de dire les choses qu'on ne dit pas. On est en train de travailler sur justement une tribune, sur tous les sujets justement de l'équilibre vie pro-perso, de l'égalité professionnelle, de la nécessité absolue d'avancer sur ces sujets avec des propositions très concrètes qu'on est en train de faire signer et qu'on espère pouvoir faire publier rapidement. Donc oui, on a vocation à être très engagé, à avoir vraiment à prendre la parole sur ces sujets et le plus on le fera, le plus on ira dans le sens qu'on veut être le nôtre.
En fait, la solution YOLO n'est qu'une, enfin c'est déjà énorme, mais c'est qu'une pierre à l'édifice d'un nouveau monde pour lequel on se bat en fait. Et d'un nouveau monde, bon, on dit que c'est un monde woman-centric, parce qu'au lieu d'être pensé que pour les hommes, il est pensé pour les hommes et pour les femmes. Mais nous, on est convaincus que si on pense le monde du travail pour les femmes, au final, il va être pensé pour tout le monde. Parce que beaucoup d'hommes aujourd'hui, beaucoup de pères veulent sortir aussi de ces injonctions de la société, de tu t'occupes pas de tes enfants, tu rentres à je sais pas quelle heure, tu voyages au bout du monde et t'as une maîtresse quoi, en gros. et les aidants, donc je pense qu'il faut, enfin voilà, je pense qu'on a notre solution, l'opérationnel, et puis on a notre combat.
Nous on veut changer la vie des femmes en entreprise pour transformer les entreprises et donc pour transformer la société. Donc, c'est quand même un projet.
Voilà. Un beau projet, une belle mission.
Exactement.
Avant de nous quitter, il y a une petite tradition à la fin de 40 nuances de Sista, qui est de choisir une femme entrepreneur que vous admirez. Alors, comme vous êtes deux, vous avez le droit à deux femmes entrepreneurs.
Wow.
ou deux femmes entrepreneurs sur qui vous voudriez mettre un petit coup de projecteur.
On a eu la chance à nouveau de recevoir un prix la semaine dernière, initiative sociétale remarquable sur la santé des femmes, donc on a rencontré plein d'entrepreneurs. Et du coup, on s'est posé la question, c'est difficile de choisir. Moi, je voulais du coup pouvoir mettre en lumière une femme que tu connais peut-être, qui s'appelle Isabelle Rabier, de Joli Moi, parce qu'effectivement, c'est quatre femmes entrepreneurs, Isabelle et ses trois associés, qu'elles ont un projet, une entreprise qu'elles arrivent à mener de façon extraordinaire, avec un modèle qui finalement, pour partie avec leur beauty stylist, ressemble d'une certaine façon à celui de nos alliés, et qui aujourd'hui a une réussite incroyable et qui, moi, je trouve très inspirant.
Et moi... du coup, j'aimerais mettre un coup de projecteur sur Sandra Fiodo, qui est une entrepreneure qui est basée à Bordeaux et qui a monté une boîte qui s'appelle Conscious Culture et un podcast qui s'appelle Les Équilibristes, okay. Voilà, sur la conciliation vie pro, vie perso. Et c'est avec elle qu'on va publier, qu'on a écrit et qu'on va publier notre tribune. Et voilà. Et Sandra, c'est une battante qui croit dans ses convictions.
Qui a un très beau podcast.
Qui a un très beau podcast, qui monte des très beaux programmes. Et voilà.
Et qui est une très belle personne.
Et aussi. Qui est une très belle personne, ouais. On l'aime beaucoup.
Nous aussi.
Tant mieux.
Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues nous parler de YOLO et de votre combat qu'on partage. Et on vous souhaite la meilleure des réussites pour YOLO. Et qui sait, peut-être qu'un jour, on passera dans 40 nuances de Next avec YOLO.
Attends, c'est tout ce qu'on se souhaite.
Absolument.
Même si je ne suis pas sûre qu'il faille lever absolument pour réussir à développer ta boîte.
Non.
Et en fait, du coup, c'était une discussion qu'on avait avec Thomas qui était de dire oui, mais en fait, ce qui est un peu discriminant, c'est qu'en fait, tu as des boîtes qui ont fait des croissances de dingue sans lever. Et en fait, ces boîtes-là, elles ne sont pas visibles. Et nous, on croit beaucoup au fait de ne pas lever et de finalement financer sa croissance. Donc peut-être qu'il faudra un nouveau format de podcast.
Ou juste un autre classement.
Voilà.
Merci.
Merci.